7h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et je vous parlais tout à l'heure de cette semaine qui s'annonce très chaude, le coup de chaud, le coup de chaleur, la canicule, nous préférons nous Européens, coup de chaleur et coup de chaud, puisqu'il ne va durer que 3 jours. 3 jours au cours desquels nous atteindrons des valeurs de 32, 33 degrés sur de très nombreuses villes, jusqu'à 35 à Lyon et peut-être même au-delà. Bref, il va faire très très chaud subitement et c'est presque habituel. Hein. L'année dernière, nous avions eu un coup de chaleur beaucoup plus important à cette époque. Alors en ce qui concerne maintenant la suite, eh bien vendredi, samedi et surtout samedi, dimanche, nous aurons des orages qui vont permettre aux températures de descendre très très largement. Nous verrons cela tout à l'heure, mais sachez que de toute manière, le coup de chaud ne devrait durer que quelques jours. En attendant, peut-être un autre hein, de même nature la semaine prochaine. On verra bien. Okay, maintenant, les températures d'aujourd'hui, elles commencent un peu fraîches et termineront entre 18 et 31 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1, François Geffrier nous a rejoint. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On écoute le monde changer.
Europe 1, il est 8h.
Je voulais pas me réveiller jusqu'à ce que ma mère débarque dans ma chambre et décide de me réveiller. C'est pas une partie de plaisir.
Une rentrée scolaire au mois de juin et à 2 semaines des grandes vacances, il fallait le faire. Tous les écoliers et collégiens sont censés être de retour en classe ce matin. 35 degrés à l'ombre, attendu en milieu de semaine, le premier pic de chaleur de l'année. Qu'on se console, il avait fait jusqu'à 46 dans l'Hérault à la même période, il y a un an. Sondage Europe 1, Anne Hidalgo largement devant Rachida Dati et Agnès Buzyn. Sur ces thèmes de prédilection, la mère sortante et rentre dedans.
La voiture individuelle, thermique, polluante, ce n'est pas ce modèle-là que nous voulons.
Dans ce journal, le rapatriement par la France de 10 enfants de djihadistes depuis des camps en Syrie, le regard de Vincent Hervouette sur l'attaque de samedi en Angleterre et la réouverture peu à peu de l'Europe. Les frontières espagnoles, c'était ce week-end avec les premiers touristes français presque blasés du coronavirus.
On était à Paris en Seine-Saint-Denis, on était aussi dans un secteur où il y a eu un gros pic, donc que ça soit là-bas ou ici, c'est pareil pour moi.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. 8h30, moteur, action, les cinémas rouvrent leurs portes. Avec quel film? Tiens, Mathieu Charrier nous donnera le programme et vous venez en discuter avec lui. Inscrivez-vous maintenant au 39-21. 8h45, Nicolas Canteloup, la revue de presse bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Qui a eu cette idée folle pour 2 semaines de revenir à l'école en rechangeant les protocoles? Si l'on compte bien, après septembre, mai et début juin, on en est ce matin à la 4e rentrée scolaire.
Depuis la fin du confinement, à peine un écolier sur 4 et moins d'un collégien sur 5 étaient retournés en classe. Aujourd'hui, tous sont censés être de retour dans leur établissement.
Victor Delande, vous êtes pour Europe 1 en direct du collège Claude Debussy à Paris. Les élèves autour de vous sont-ils heureux de se retrouver?
Oui, très content de se revoir pour ceux qui ont les yeux ouverts, car le réveil a été dur ce matin, notamment pour les 4e et 3e qui n'avaient plus remis les pieds dans leur collège depuis le 13 mars dernier, autant dire une éternité. C'est le cas d'Inès au radar ce matin.
Je voulais pas me réveiller jusqu'à ce que ma mère débarque dans ma chambre et décide de me réveiller. Mais sinon, non. C'est vrai que c'est dur parce qu'on a l'habitude pendant le confinement de se lever vers 9h ou 10h pour commencer les cours. Et là, venir à 8h devant le collège, c'est pas une partie de plaisir.
Ils portent quasiment tous un masque, se saluent d'un geste de la main. Et certains collégiens comme Myriam se demandent bien comment ça va se passer à l'intérieur.
Genre, on a toujours cette appréhension de savoir comment ça va se passer parce que là, c'est différent de d'habitude avec les masques et tout. On est en demi-groupe, donc on va pas forcément voir tous nos amis.
Et pour ces 15 derniers jours de classe, les élèves du collège Debussy n'auront cours que par demi-journée. Les salles de classe sont trop petites pour faire respecter les nouvelles règles de distanciation physique. 1 mètre latéral entre chaque élève. Ce sera donc 15 élèves par classe. Une moitié aura cours le matin, l'autre l'après-midi. Du gel hydroalcoolique pour tout le monde à l'entrée. Et port du masque obligatoire dans la cour de récréation, mais pas dans les salles de classe.
Le direct sur Europe 1 ce matin, Victor Delande, dans le 15e arrondissement de Paris.
Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, là aussi, on franchit une nouvelle étape du déconfinement. Il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour les visites et leur durée n'est plus limitée.
On attend en revanche une vague de chaleur cette semaine. Les 35 degrés pourraient être dépassés par endroits à partir de mercredi. C'est une nouvelle difficulté pour les EHPAD, ce que confirme Eric Frégonat, directeur adjoint de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.
On sait qu'on a aujourd'hui des process qui sont bien maîtrisés par les équipes, avec une diffusion de l'information qui est bien claire. Donc aujourd'hui, on pense qu'on est préparé. Pour autant, le manque de moyens et la fatigue accumulée durant la période Covid, ça fait beaucoup, mais c'est le propre de notre travail. Pour autant, sans le nombre de professionnels adéquats, on aura beau mettre en œuvre tous les efforts et tous les process, dès lors qu'il y a une période de canicule, il y a un nombre de personnes âgées qui meurent en excès. Et donc ça, c'est inacceptable à notre sens, et on se doit de mettre les moyens à la hauteur pour aider les personnes âgées et les sauver.
Éric Frégonat, joint par Paul Lassen pour Europe 1.
Encore 60 personnes sorties guéries des hôpitaux français en 24 heures. Le nombre de patients en service de réanimation ne change pas. Ils sont toujours 715.
Hier, on a pu observer notamment à Paris un déconfinement accéléré au rythme de la fête de la musique sur les quais du canal Saint-Martin, rue du Paradis, rue de Paradis ou encore rue des Archives. Quelques échauffourées également sur l'esplanade des Invalides. On l'entend sur cette vidéo des réseaux sociaux avec des tirs de feux d'artifice. Fils amateur, une voiture de police a subi des jets de projectiles.
On reste à Paris avec ce sondage Europe 1 réalisé par BVA avec la Tribune. Anne Hidalgo semble très proche de se rasseoir dans son fauteuil de maire de la capitale.
Hier, c'est sur la selle d'un vélo que Claudia Bertram l'a suivi. Notre sondage la donne à 45% d'intention de vote devant Rachida Dati, 34% et Agnès Buzyn, 18%. La dynamique est là, semble-t-il, pour Anne Hidalgo.
Toujours super, le vélo.
Dernière ligne droite à vélo pour Anne Hidalgo. Masquée et casquée, elle martèle son projet écolo.
Certains voudraient nous faire repartir en arrière, voudraient faire croire que la ville devrait encore se construire autour de la voiture individuelle, thermique, polluante. Ce n'est pas ce modèle-là que nous voulons.
À ses côtés, son allié écologiste David Belliard, avec qui elle a fusionné ses listes en vue du second tour.
Il y a une urgence. Cette urgence, ça s'appelle le dérèglement climatique. Et nous devons y répondre et de manière extrêmement forte et pratique. Et c'est ce que nous faisons ensemble aujourd'hui.
C'est sous les fenêtres de la mairie du 5e arrondissement que le cortège de vélos fait une pause. Et ce n'est pas un hasard. La maire sortante LREM, Florence Berthoux, s'est alliée à Rachida Dati pour le second tour.
Nous sommes en conquête. Lorsque nous avons aménagé cette place pour supprimer les grands parking à voiture. Nous avons eu une opposition farouche de la maire du 5e arrondissement. D'ailleurs, je ne sais pas très bien pour qui elle roule exactement.
Nettement avantagée dans les sondages dans la course à la mairie de Paris, Anne Hidalgo rappelle que l'élection n'est pas jouée avant de se remettre en selle.
Et vous retrouvez tous les détails de notre sondage Europe 1 BVA La Tribune sur europe1.fr.
Europe 1, il est 8h06.
L'actualité judiciaire, 17 ans après la disparition de la petite Estelle Mouzin, 9 ans en 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne. Et après les aveux de Michel Fourniret, des fouilles sont organisées aujourd'hui dans deux anciennes propriétés du tueur en série. Les précisions de Salomé Legrand.
Devant la juge en mars dernier, Michel Fourniret a reconnu avoir pris la vie d'Estelle Mouzin. Mais il est resté mutique sur l'endroit où se trouve le corps de la fillette, d'où les fouilles qui commencent aujourd'hui. Au château du Sautou, dans les Ardennes, où le tueur en série a vécu avec sa femme, Monique Olivier, mais aussi dans une maison de Ville-sur-Lume, dans le même département. Elle appartenait à la sœur de Michel Fourniret et les enquêteurs sont convaincus que l'ogre y a séquestré la fillette au moins durant quelques jours. Ils ont d'ailleurs retrouvé un ticket de caisse qui prouve qu'il a fait des courses à proximité 2 jours après l'enlèvement. Dans un autre dossier, Michel Fourniret avait enseveli ses 2 victimes par 3 mètres de profondeur à l'aide d'une pelleteuse. Il avait fallu des heures de fouilles pour les retrouver. D'après nos informations, le père d'Estelle Mouzin et ses avocats sont presque certains que ces recherches vont déboucher.
Salomé Legrand avec Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. La France rapatrie de nouveau des enfants de djihadistes. Les premières précisions à suivre.
Et puis l'attaque de Reading en Angleterre samedi soir. Ce sera le regard international de Vincent Hervouette.
A tout de suite.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal. François Geffrier, Mathieu Béliard.
C'est l'information de la nuit. La France a rapatrié 10 enfants de djihadistes français de Syrie.
Julien Pierce, c'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a annoncé dans un communiqué il y a à peine plus d'une heure.
Oui, ils ont été rapatriés cette nuit. Il s'agit de 10 jeunes enfants français, orphelins ou cas humanitaires qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie, précise le ministère des Affaires étrangères, qui ajoute « Ces enfants ont été remis aux autorités judiciaires, font l'objet d'un suivi médical et d'une prise en charge par les services sociaux. Depuis les l'effondrement du groupe État islamique en mars 2019. La France a ramené en tout sur son sol 28 enfants de Syrie, bien trop peu pour le collectif Famille Unie qui milite pour ces rapatriements. Selon cette association, quelques 300 enfants de djihadistes français sont encore retenus dans ces camps sous contrôle kurde. La plupart est née sur place et à moins de 5 ans. Dans le camp d'Al-Rol, où s'entassent sous des tentes 70 000 personnes, près de 400 enfants sont décédés l'année passée, dont un jeune de 10 ans né en France, mort des suites d'une septicémie.
Les précisions de Julien Pierce pour Europe 1.
Au Royaume-Uni, la police antiterroriste s'est saisie hier de l'enquête sur l'attaque au couteau samedi soir dans un parc de Reading à l'ouest de Londres. Une attaque qui a fait 3 morts, Vincent Hervouette.
Alors la police britannique a mis la soirée, la nuit et une partie de la matinée avant de parler d'actes terroristes. On n'est jamais trop prudent. En même temps, un furieux avec un couteau qui crie dans une langue inconnue et frappe les passants, si possible à la gorge comme les moutons ou aux aisselles pour les tuer, c'est déjà arrivé. C'est la 3e attaque de ce genre en 6 mois au Royaume-Uni. D'ailleurs, Emmanuel Macron a tweeté la solidarité de la France face au fléau du terrorisme. Un fléau, c'est une fatalité. Cela tient de la punition divine. C'était écrit « Mektoub ». Peut-être que Kerry Saad Allah s'imagine être l'outil du destin. Qui sait ? En tout cas, le réfugié vient de Libye. Il a vécu la guerre civile après que la France et le Royaume-Uni ont cru nécessaire de débarrasser la planète de Kadhafi. C'était bien une décision fatale. Sans elle, Kerry Saad Allah, son couteau, sa famille seraient restés en Libye.
Après l'attentat de novembre, Boris Johnson avait promis des lois plus dures contre les terroristes.
Et après l'attentat de février, il a dégainé un plan d'action, notamment une peine minimum incompressible de 14 ans de prison et davantage de moyens pour les services spécialisés. Après l'attentat de samedi, il s'est dit écœuré. Il y a de quoi ? Kerry Saad Allah avait été repéré par les services de renseignement intérieur, tout comme les terroristes de novembre et de février.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Après plus de 3 mois de confinement, les Espagnols ont retrouvé hier leur liberté de circuler et les frontières sont rouvertes.
Oui, les premiers touristes français sont arrivés. Ils ne sont pas nombreux, mais ceux qu'a rencontré Henri de Laguéry à l'aéroport de Barcelone, c'est quasiment une ville française dans ces cas-là, Barcelone, sont absolument ravis.
Enfin déconfiné, enfin l'Espagne ouvre ses portes.
Thierry et sa femme attendaient ce moment depuis plus de 3 mois, reprendre l'avion et retrouver le pied-à-terre qu'il possède à Barcelone.
On n'y croyait plus, parce qu'au départ c'était le 1er juillet, et là, le 21, on a pris l'avion.
À l'arrivée, le couple de Parisiens a passé un rapide contrôle de température et a rempli une fiche sanitaire. Leur avion était à moitié vide et dans l'aéroport, les passagers ne se bousculent pas. Hier, une quinzaine de vols internationaux seulement étaient programmés. C'est 10 fois moins que d'habitude. Masqué comme tous ceux qui sortent de l'avion, Aïssa, lui, est venu passer quelques jours de vacances avec des amis.
Oui, ça s'est fait à la dernière minute. Oui. Ça fait toujours du bien de partir. On a loué une petite maison avec piscine. On va profiter de la piscine et de la plage.
Pas d'inquiétude particulière à l'idée de venir ici ?
On était à Paris, en Seine-Saint-Denis. On était aussi dans un secteur où il y a eu un gros pic, donc que ça soit là-bas ou ici, c'est pareil pour moi.
Et à Barcelone, ville touristique, s'il en est, on ne s'attend pas à un retour rapide des vacanciers. Entre 10 et 15% seulement des hôtels de la capitale catalane ont prévu d'ouvrir leurs portes au mois de juillet. Barcelone, Henri de Laguéry, Europe 1.
Barcelone détrôné hier soir au classement de la Liga, le championnat de foot espagnol, car le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à la Real Sociedad.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. À 8h14, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce que le monde d'après, c'est l'écologie d'avant ? La machine à taxer semble de retour avec la Convention citoyenne pour le climat et pour certains, ça ressemble même à un repas vegan, sans originalité et sans saveur. Qu'en pense notre invité, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie ?
À tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Est-ce que l'urgence économique est compatible avec la Convention citoyenne pour le climat qui veut multiplier taxes, normes et interdictions ?
Alors j'en ai pas tout à fait la même lecture, c'est-à-dire que la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui font des propositions et lorsqu'on regarde dans le détail ces propositions, on y reconnaît des axes assez majeurs de politique publique sur lesquels le gouvernement cherche à mettre l'accélérateur. Je pense à la rénovation thermique. Sur la rénovation thermique, on peut quasiment dire que le gouvernement a anticipé ces démarches et les recommandations. Je pense aussi à tout ce qui est autour de la conversion des véhicules polluants en véhicules moins polluants. Intéressant d'ailleurs de voir que la convention ne fait pas le départ entre véhicules diesel, etc. Il dit juste qu'il faut changer, il faut une prime à la conversion qui soit plus forte et qui incite plus.
Alors peut-être que vous n'avez pas vu la suite. Agnès Pannier-Runacher, taxer les dividendes des sociétés, interdire les publicités pour les SUV, limiter la vitesse sur autoroute. Est-ce que ce ne sont pas des taxes, des normes et des interdictions ?
Si, bien sûr. Il y a des interdictions comportementales qui peuvent être peut-être aussi un appel à la responsabilité des Français. Lorsqu'on dit qu'il faut effectivement limiter la vitesse sur l'autoroute, ça renvoie à un débat que l'on a eu.
Et qu'on a eu de manière assez passionnée. Vous êtes favorable d'ailleurs à cette limitation sur autoroute. Est-ce que pour vous c'est pertinent sur le plan écologique ?
D'un point de vue personnel, ça ne me pose pas de problème.
Donc vous êtes favorable.
Mais je me place en tant que citoyen individuel. En revanche, moi j'ai entendu ce qu'ont dit les Français sur les 80 km/h et je crois qu'on ne peut pas le balayer du revers de la main. Même si cette convention, encore une fois, c'est le président de la République qui l'a voulu, c'est une démarche qui est inédite en termes d'exercice démocratique et ça a été fait extrêmement sérieusement.
C'est intéressant, vous dites exercice démocratique, mais dites-moi Agnès Pannier-Runacher, quelle est la légitimité démocratique de 150 personnes tirées au sort pour voter la limitation sur autoroute de 110 km et toucher à notre vie quotidienne ?
Deux choses, d'abord, il renvoie justement aux responsables politiques. Ils font des propositions, ils ne définissent pas la norme. La deuxième chose, rappelez-vous la démocratie athénienne. Je rappelle que c'était par l'élection qu'on choisissait les représentants
C'est ça le monde d'après alors.
Donc, non mais je pense qu'il ne faut pas balayer du revers de la main ce travail qui est profond.
On ne balaye pas, on l'interroge. Ce qui nous interpelle ce matin, Madame la Ministre, c'est que c'est l'écologie punitive, c'est que c'est le retour de la machine à taxer. Franchement, tant de taxes pour l'écologie de demain, c'est ça votre nouveau chemin?
Ce sont des propositions et nous devons nous en emparer et voir ce qu'on en fait. Moi, je retrouve toutes les têtes de chapitre sur lesquelles nous devons travailler. Je vous parlais de la prime à la conversion. Aujourd'hui, j'observe qu'on a mis en place un programme dans le plan auto de prime à la conversion. On est presque au bout, c'est-à-dire que d'ici septembre, d'après les informations que nous remontent les concessionnaires, que nous remontent les producteurs de voitures, on aura consommé cette enveloppe de 200 000 primes
à la
conversion.
L'objectif sera donc atteint, si je vous entends bien.
D'ici septembre, si la tendance que nous voyons se poursuit. Ça veut dire que c'est un énorme succès. Ça veut dire que là, on est dans l'incitation et que ça fonctionne. Et donc, c'est un bon signal.
L'incitation et donc là, la taxation.
Tout à fait.
Ah bah donc c'est différent. Mais je vous pose la question, Agnès Pannier-Runacher, vous êtes, et ce matin, vous êtes la secrétaire d'État en charge de l'économie. La France traverse malheureusement sa pire crise économique, sociale et sociétale. Est-ce que l'urgence aujourd'hui, c'est un référendum sur le crime d'écocide ? Bien sûr que c'est grave, un crime contre la planète, mais est-ce que c'est l'urgence ?
Je crois qu'il ne faut pas confondre différents sujets en disant que l'un empêche de traiter l'autre. Il y a eu ce débat sur la PMA, on disait est-ce que l'urgence c'est de voter la PMA alors qu'on doit faire face à une crise économique ? On peut très bien faire face à une crise économique et par ailleurs, avec l'autre partie de son cerveau, traiter des sujets importants et des sujets structurels. Et pour moi, la PMA, ce n'était pas une option. Donc pour revenir sur le sujet, on est effectivement face à une crise majeure. Il va falloir se battre pour chaque emploi et il ne faut pas céder au fatalisme. Mais le fait de dire que l'économie de demain est une économie décarbonée, est une économie de transition, c'est important
aussi.
Mais
se battre pour chaque emploi, ce n'est pas taxer les entreprises. De nombreux entrepreneurs vous écoutent ce matin et se demandent est-ce que c'est l'alpha et l'oméga aujourd'hui de vouloir taxer les dividendes encore ? On a l'impression que c'est l'obsession française.
Alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, le gouvernement a été très clair sur le fait que l'augmentation des impôts dans un pays qui a le niveau d'impôt le plus élevé d'Europe n'est probablement pas la meilleure chose à faire dans un moment de crise. Et on a été très clair sur ce sujet. Je préfère effectivement, à titre personnel, les incitations. Je préfère la responsabilisation collective. Lorsqu'on dit il ne faut peut-être pas utiliser la climatisation à tort et à travers, je fais confiance aussi aux Français pour se mettre dans cette posture de savoir utiliser à bon escient l'électricité et on l'a montré dans d'autres circonstances. D'un autre côté,
responsabiliser, pas infantiliser. Hein. Parce qu'on est sorti d'une période, on en a beaucoup parlé.
Pas infantiliser, pas ce discours où on doit faire la pédagogie de gens qui ne comprendraient pas. Les Français sont des adultes. Ils savent aussi faire la part des choses importantes de ce qui l'est moins. Et ils sauront s'adapter. Mais d'un autre côté, il y a des politiques publiques que nous devons mener. Et ça, c'est un gros morceau de la convention collective. Je parlais de la prime à la conversion. La rénovation thermique, c'est un enjeu absolument majeur sur lequel nous sommes en train de travailler et nous allons prendre des mesures fortes. Ça va être au cœur de notre plan de relance.
Bien sûr, vous parlez du plan de relance. J'imagine que vous avez dû tomber de votre chaise, Agnès Pannier-Runacher, quand vous avez entendu cette proposition, débattue par la Convention, mais pas retenue, d'une semaine de travail de... Combien ?
J'ai entendu 28
heures. 28 heures. Qu'est-ce que vous êtes dit ? C'est nuit debout, repas en verre ?
J'avoue que j'étais plutôt rassurée lorsque la Convention n'a pas retenu cette mesure. Parce que je pense que...
C'est un euphémisme, cette réponse.
Pour le coup, en termes d'emploi, l'impact était assez immédiat. C'était des milliers de salariés qui n'étaient pas en situation de poursuivre leur travail. Et je crois qu'il faut qu'on en ait collectivement, qu'on l'ait en tête. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui me gêne parfois dans les propos qu'on entend. C'est l'idée de, que la croissance, c'est nécessairement de la production. La croissance... c'est dans une économie de services, plus de services et mieux de services.
Oui, mais ce n'est pas la décroissance, c'est
mieux. Lorsque vous soignez, vous ne créez pas, vous n'utilisez pas des matières premières, et pourtant c'est de la croissance. Mais... lorsque vous informez, Sonia Mabrouk, vous créez de la richesse, et pourtant vous ne produisez pas et vous ne diminuez pas l'empreinte environnementale de la planète. Donc ne nous trompons pas de combat. Et lorsqu'on dit qu'il faut réindustrialiser la France, c'est pour... remettre, relocaliser des productions en France parce qu'à l'extérieur, elles sont probablement avec des exigences environnementales et sociales
Agnès
qui sont moins
disantes. Il faut revenir au travail, rentrée obligatoire dès ce lundi à l'école. Ça veut dire aussi que tous les parents, de retour physiquement au travail ?
Tous les parents ont soit la possibilité de rester en télétravail, ça dépend des accords qu'ils
Mais
ont avec leur entreprise.
Mais vous les encouragez à revenir ?
Moi, je les encourage à avoir un rythme de travail où ils reviennent régulièrement, physiquement, sur leur poste de travail.
Est-ce que ça va suffire ? Ici même, le patron du MEDEF lançait un appel à revenir physiquement au travail. Il dit, avec cette crise si profonde, on n'a plus le choix. Vous ne devez plus rester en télétravail, ça ne doit pas devenir la norme. Est-ce que vous le rejoignez ?
Alors, je n'ai pas la même appréciation parce que j'ai vu que le télétravail induisait aussi de la productivité et une très bonne productivité. Donc, il ne faut pas tomber de l'autre côté du cheval. On a montré que le télétravail pouvait être efficace. On a aussi montré que du télétravail imposé pendant des semaines de suite pouvait conduire à des risques psychosociaux puisque vous avez des gens qui ont mal vécu le télétravail. Et ça, il faut également le dire. Donc, il y a un juste équilibre. On voit bien qu'on a besoin, on est un animal social. L'homme est un animal social. Il a besoin de revoir ses collègues. Il a besoin de renouer le lien avec l'entreprise. Est-ce que, néanmoins, il faut revenir à un système où on avait maximum un jour de télétravail par semaine dans la plupart des entreprises? Peut-être
pas. C'est intéressant. Parce que vous, avez quand même, vous êtes beaucoup plus nuancé à vous entendre que certains acteurs économiques.
Tout à fait. Et regardez l'impact aussi sur les embouteillages, sur le temps perdu dans les transports. Je pense que le télétravail, c'est un des moyens de travailler qui est finalement utile, mais qui ne doit pas être ni à 100% ni à 0%.
Et vous, Agnès Pannier-Runacher, vous n'êtes pas au télétravail, vous êtes au travail. Vous allez me dire que vous ne faites que ça, que vous ne pensez pas au remaniement, bien sûr, vous me voyez venir.
Oui, et je peux vous rassurer, au ministère de l'économie et des finances, avec les enjeux sociaux que nous avons devant nous, on ne manque pas de travail.
Seulement, chaque ministre en ce moment défend, et c'est tout à fait normal, son portefeuille, voire milite pour un élargissement. Est-ce que vous aussi, ce serait légitime que vous ayez de plus larges ambitions ?
Comme tout ministre qui...
Pas de langue de bois, allez-y.
Non, mais comme tout ministre qui... et passionné par son travail, bien sûr que
vous pourriez
j'ai envie
plus,
d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'avoir et en plus une équipe qui soit renforcée compte tenu des enjeux qu'on doit traiter et tout ce qui est autour de l'économie, de l'accompagnement des entreprises, de l'accompagnement des salariés m'intéresse et il y a énormément de challenges devant nous et il va falloir les relever.
Porter, pour conclure justement, pour les porter, est-ce qu'on peut se passer d'un Premier ministre avec une telle popularité aussi insolente ?
Je crois que ce n'est pas aux enfants de commenter comment les parents doivent se retrouver.
Et, c'est un drôle de réponse.
Je suis très à l'aise avec la décision que prendra le président de la République et les décisions que prendra le Premier ministre dans les prochains jours.
Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et puis bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
On va méditer sur cette image des parents, des enfants. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h27, vous êtes sur Europe 1. Les salles de cinéma qui rouvrent leurs portes. Mathieu Charrier, spécialiste ciné d'Europe 1, va nous rejoindre en studio. Et vous, quelles envies avez-vous ? Quel sera le premier film que vous irez voir en salle ? Dites-le nous au 3921 et sur le hashtag Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Europe 1, il est 8h30, vous écoutez Mathieu Béliard et vous retrouvez ce lundi 22 juin le chemin des salles obscures. On parle cinéma avec vous au 3921, on vous lit sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et nous sommes avec notre spécialiste cinéma, Mathieu Charry.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors moi il m'épate.
À la deux mois de rediffusion des classiques avec Louis de Funès, entre autres classiques bien sûr. Pour certains c'était plutôt Netflix et de la série à gogo. Ça y est, les salles de cinéma rouvrent. Quel sourire vous avez, Mathieu Charrier.
Ah bah ça fait du bien. Oui, mais c'est dans la lignée de tout ce qui est en train de réouvrir, des bars, des restaurants. Enfin, on a l'impression quand même que la vie reprend. Le cinéma c'est un lieu de vie, c'est un lieu de sociabilité.
Retour à la vie, me disait précisément Olivier Nakache à 7h40, le réalisateur Olivier Nakache qui était notre invité. Les salles de cinéma qui rouvrent leurs portes à 6h20. Tiens, nous étions avec le plus vieux cinéma au monde, la première séance historique, c'était à La Ciotat, l'Eden Théâtre. Et donc on célèbre le retour des films en salle, des spectateurs en salle, Mathieu Charry.
Ça, on l'espère.
Il y a d'ailleurs, je vous ai demandé hors antenne, je le dis à nos auditeurs, quel sera le premier film que vous irez voir là, dans ceux qui sortent. Vous m'avez dit, je les ai vus en février. Oui,
oui,
parce qu'il y a eu un peu de décalage. Et il y a quelques ressorties d'ailleurs pour les films qu'on aurait ratés.
Il y a beaucoup de ressorties parce qu'il y avait des films qui étaient sortis en fait effectivement en janvier, février, mars, juste avant le confinement et qui évidemment n'ont pas fait tout le public qu'ils auraient dû faire et qui ont eu le droit de ressortir. Donc il y a notamment De Gaulle, vous avez vu les affiches pendant très longtemps. Il y a De Gaulle porté par Lambert Wilson qui se concentre vraiment sur la période mai 40 au moment où il prépare son appel du 18 juin. On voit toutes les relations avec sa famille, avec sa femme Yvonne, avec sa fille trisomique aussi. Et c'est un très beau portrait de De Gaulle qui est joué par Lambert Wilson qui cherche pas du tout à le singer ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que c'est un film qui avait bien marché, qui était bien parti. Tout le monde se disait ça va faire un beau succès populaire sur un personnage. Et puis finalement, tac, ça s'est arrêté. Il y a La Bonne Épouse aussi, dont on a déjà parlé avec Juliette Binoche. Vous savez, les écoles ménagères à la fin des années 60, vous aviez en France des écoles pour former les jeunes femmes à devenir de bonnes épouses. Alors on leur apprenait tout ce qu'il fallait pour bien repasser, bien mettre la table, etc. C'était il y a 50 ans. C'est assez dingue de se dire que c'était il y a 50 ans. Donc voilà, tous ces films-là, ils ressortent. Il y a aussi des petites pépites. Moi, j'avais conseillé à nos auditeurs, et je le redis, un film qui s'appelle Un Fils, qui est un film franco-tunisien. On est dans le sud de la Tunisie, il y a un père qui conduit un gros 4x4. On sent que voilà, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a son fils à l'arrière, qui est pris dans une embuscade. Son fils est touché d'une balle. Et il va falloir l'opérer, il va falloir le transplanter pour le sauver. On se tourne vers le père en lui disant, a priori, il n'y a que vous qui pouvez donner un organe pour le sauver. Et en fait, ils vont faire des analyses et se rendre compte que ce n'est pas le père. Et donc, c'est tout l'équilibre de la famille qui va être bouleversé à l'occasion de cette question, comment sauver cet enfant. Donc voilà, il y avait des très beaux films qui étaient en salle et qui ressortent. Et puis après, vous avez aussi des nouveaux films, c'est-à-dire des films qui devaient sortir pendant
le confinement. Et qui attendaient impatiemment la fin du confinement.
Parce qu'ils n'ont pas pu. Il y a un film allemand qui s'appelle Benny, qui est formidable, sur une jeune fille de 9 ans qui s'enferme dans la violence parce qu'elle a été abandonnée par sa maman à la naissance, placée par sa maman à la naissance. Et vous avez aussi The Hunt, qui est un film que moi je trouve assez dingue. Vous avez des citoyens américains qui se réveillent dans une sorte de prairie et qui commencent à se faire tirer dessus. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des riches qui ont payé pour être dans un manoir et pouvoir faire une véritable chasse à l'homme. Donc c'est un film qui est très politique. Trump avait tenté d'en faire interdire ce film. Voilà, tout ça, ça sort et tout ça, on a envie de le voir sur grand écran. Parce qu'évidemment, vous parliez de Netflix, on a vu des choses pendant le confinement, mais quand même, une salle comme ça, assis tous ensemble, c'est formidable.
C'est pas la même expérience. C'est un peu comme le télétravail. Hein. On a tous trouvé ça formidable voilà. Au début. Puis sur la longueur, on se dit que la salle de cinéma manque peut-être un peu. Renaud nous a écrit, alors attendez, le tweet de Renaud. Plaisir de retourner enfin en salle dès demain. Point d'exclamation. Et ensuite, c'était les graphiques. Lundi, Nous les chiens et Inception. Mercredi, Inside Out. Monsieur et Madame Adelman. Jeudi, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Vendredi, Au revoir là-haut et A Clockwork Orange. Donc c'est Orange Mécanique. Dimanche, La La Land. Voilà le programme de Renaud qui va relancer à lui tout seul l'industrie du cinéma.
Oui, mais il est intéressant le programme de Renaud parce que c'est que des entre guillemets vieux films, en tout cas des films qui sont sortis il y a un petit moment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les salles ressortent aussi, en profitent pour reprojeter des vieux films, il faut y avoir de la place, parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de ressorties, mais il n'y a pas assez de films quand même globalement, il ne va pas y avoir assez de films dans nos salles dans les prochaines semaines, parce que tout s'est
arrêté. Et donc on va revoir des classiques.
Et donc on va revoir des grands classiques, et c'est vrai qu'il y a des films, revoir Orange Mécanique sur grand écran, c'est pas donné tous les jours, et avoir la possibilité de le faire quand c'est des films qu'on aime, c'est formidable. Au revoir là-haut, tous ces films-là, c'est formidable de les revoir sur grand écran.
Belle idée de Renaud, il l'a écrit sur le hashtag Europe 1. Et puis vous me précisiez aussi, Mathieu, que pour les blockbusters, les grosses productions américaines, il faudra attendre de toute façon. Ça fait de la place aux films d'auteur et aux classiques.
Ouais, c'est ça la problématique, c'est que vous avez, comme tous les cinémas du monde étaient fermés, et que ces blockbusters, notamment américains, il y a Fast and Furious, il y avait le nouveau Les Mignons, il y a tous les films Marvel qui font des millions d'entrées à chaque fois en salle. Tous ces blockbusters américains qui coûtent très 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 cher pour marcher, pour apporter suffisamment d'argent, ils sortent dans le monde entier. Donc évidemment, avec une crise comme celle-là, les distributeurs mondiaux que peuvent être Disney, qui peut être tous ces gros mastodontes, on dit hop, nous on va attendre de voir ce que ça donne. Alors Disney va a priori quand même sortir Mulan, mais tout le reste ils ont repoussé dans leur catalogue. Donc c'est vrai que les salles de cinéma, la petite inquiétude aujourd'hui, c'est celle-là, c'est de dire ok, là il y a des films pour réenclencher la pompe sur le mois de juin, peut-être début juillet, mais tous ces blockbusters qui attiraient du public en salle l'été, parce que bah, les gens sont en vacances, vous voyez, il y a un jour où il pleut un petit peu, on ne peut pas aller à la piscine ou à la plage, ou les grands-parents regardent les petits-enfants, hop, on va au cinéma, plutôt voir ce genre de film-là. Et bien cet été, ils ne seront pas dans les salles, ces films-là. Donc ça c'est une vraie question et une vraie problématique.
8h36. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Je voudrais poser cette question à Mathieu Charrier. Quand même, au-delà des films en eux-mêmes, les conditions sanitaires, le protocole pour rouvrir les salles de cinéma. Je vois la question de Nathalie sur le hashtag Europe 1. On y revient dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite.
Europe 1, il est 8h37, vous êtes avec Mathieu Béliard et notre spécialiste cinéma Mathieu Charrier. On parle avec vous de la réouverture des salles obscures au 39-21 et avec le hashtag Europe 1.
Vous le voyez là, le petit dessin animé avec sa pioche et sa petite lanterne. On peut pas vous passer l'odeur de pop-corn à la radio, pas encore, peut-être dans un an ou deux ça viendra, mais en attendant... On essaye de vous installer dans les salles de cinéma le plus confortablement possible. Mathieu Charrier, d'ailleurs, le protocole sanitaire. Bonne nouvelle sur Europe 1 hier matin, le ministre de la Culture qui annonce qu'il n'y aurait pas cette jauge à 50%. Cela dit, il y a quand même quelques règles à respecter.
Oui, mais alors moi j'ai testé ça la semaine dernière. Les cinémas étaient en train de mettre en place ces règles, donc je suis allé voir un peu comment ça se passait. Et très sincèrement, c'est pas du tout contraignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, c'est quoi c'est le même protocole que dans les commerces, etc. Vous avez un seul sens de circulation. Bon, suivre les flèches, normalement, on devrait à peu près y arriver. Vous arrivez, il y a du gel hydroalcoolique partout. On vous demande de vous laver un peu les mains. Le masque, on vous le conseille, c'est même pas obligatoire, mais on vous le conseille très fortement dans le hall, mais une fois que vous êtes dans la salle, vous pouvez l'enlever. Donc c'est pas très contraignant non plus.
Nous, on nous avait dit de l'enlever une fois assis.
Oui, c'est le conseil, mais voilà. Et après, surtout, dans la salle, effectivement, vous pouvez rester avec votre famille, vos proches, votre chérie, tout ce que vous voulez, et autour de vous, vous allez avoir un siège de libre, donc c'est même plus confortable que d'habitude, vous voyez, c'est-à-dire que vous n'allez pas être serré en randonnion. Donc en réalité... C'est pas très très contraignant les mesures sanitaires. À un moment donné, on avait eu peur qu'on doive garder le masque dans la salle, etc. Ce qui aurait, à mon avis, empêché toute reprise du cinéma. C'est pas le cas. Donc vraiment, il faut dire aux gens s'ils ont envie d'aller voir des films. Aujourd'hui, il n'y a aucun risque et ce n'est pas du tout embêtant.
Nathalie nous écrit sur le hashtag Europe 1 « Je vais retourner au cinéma dès ce soir. Ça m'avait manqué, mais je me demande si la climatisation sera en marche avec les fortes températures attendues, avec les mesures sanitaires. Est-ce que vous le savez, ça,
oui,
Mathieu ?»
Oui, mais de toute façon, il n'y a jamais eu d'études pour l'instant prouvant que la clim transportait le Covid. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Mais... Donc oui, il y aura la clim. Les salles sont aérées entre chaque... Ils ont un peu espacé les séances. C'est-à-dire qu'en temps normal, vous avez un petit quart d'heure entre chaque séance. Là, on sera plutôt proche d'une demi-heure pour pouvoir ouvrir toutes les portes, pour pouvoir aérer tout ça et que... S'il y avait un éventuel virus à l'intérieur, il puisse s'aérer, bon, voilà. Mais non, bien sûr, il y aura la clim, il y aura tout le confort habituel dans votre cinéma, les pop-corns seront là. La seule chose, c'est qu'on vous demande...
Il me regarde droit dans les yeux, Mathieu.
C'est qu'on vous demande, et je le dis à nos auditeurs, si possible, de prendre vos places et justement d'acheter la confiserie, etc., dans les cinémas où c'est possible, à l'avance. Comme ça, vous arrivez avec votre smartphone, vous bipez et on vous donne votre confiserie. C'est un peu comme les moyens de paiement sans contact. D'accord. Pour éviter qu'il y ait trop de contacts avec les caissiers, voilà, etc. Bon. C'est la seule petite astuce.
Mais c'est vrai que les restaurateurs n'ont pas eu de chance, hein. En tout cas en Île-de-France qui était zone rouge à ce moment-là, orange à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir quand on a ouvert vers les terrasses. Là, pour le cinéma, on annonce des températures caniculaires.
Tous les ans, on se demande est-ce que la chaleur fait que les gens y vont pour la clim ou n'y vont pas parce qu'ils vont dehors. Et il n'y a jamais eu une vraie étude un peu sérieuse capable de dire c'est dans un sens ou dans un autre. Donc si les gens ont envie d'aller au cinéma et s'il y a une belle offre, ils y vont.
Souhaitons au secteur que ça les aide, hein, les cinéastes, les patrons de salles de cinéma. D'ailleurs, un secteur qui a... vécu particulièrement cette période du confinement.
Vous imaginez, ça n'était jamais arrivé en France que tous les cinémas soient fermés. Hein. Même pendant les guerres, etc., il y avait des cinémas ouverts. Donc c'est quand même un moment complètement historique. Et puis vous vous rendez compte, c'est comme si on avait fermé Europe 1 et que chaque semaine, on se demandait, nous, mais quand est-ce qu'on va pouvoir se remettre derrière le micro ? Eux, c'était ça. C'est-à-dire que chaque semaine, ils ne savaient pas, ils attendaient. Et puis on leur dit, les restaurants vont rouvrir, mais ils disaient, nous, quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ? Enfin, il y a eu une incertitude. Puis après, il y a eu ce dont on parlait tout à l'heure, de savoir s'ils allaient avoir des films à montrer. Qu'aujourd'hui, quand même, là, c'est une journée de fête, c'est une journée, on y va, on y retourne, mais il y a quand même beaucoup de salles de cinéma qui sont très inquiètes pour la suite, parce que les gens ne vont pas rattraper 3 mois de non-entrée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller 3 fois plus au cinéma pour rattraper ces... Donc on sait que ça va être une année où il va y avoir moins d'entrées que d'habitude. Puis vous savez, le cinéma, c'est un système aussi qui s'autofinance toujours, c'est-à-dire quand vous achetez un billet de cinéma, il y a une part du billet qui revient au CNC, qui permet de financer d'autres films, etc. Tout ça, va y avoir du manque à gagner, donc tous les professionnels, ils attendent de voir si l'État va les aider, ils attendent. Donc il y a quand même encore beaucoup de craintes, même si c'est une journée de fête.
Un dernier message d'auditeur, celui de Christian sur le hashtag Europe 1. J'ai hâte d'aller voir Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. La bande-annonce m'a fait hurler de rire en ce moment, j'en ai énormément besoin.
Ouais. Ça sort début juillet, ça je l'ai vu, effectivement c'est une comédie, Jean-Pascal Zadi. C'est donc un noir qui va chercher à aller convaincre d'autres personnes de différentes religions de faire une marche des fiertés. Alors il va aller voir Fabrice Eboué, il va aller voir Éric Judor, il va aller voir comme ça plein de comiques français. C'est une tournée comme une sorte de vrai faux documentaire et à chaque fois il va se faire remballer et on va se rendre compte, que chacun veut tirer un peu la couverture à lui. Il y a une scène aussi avec Ramzy qui est formidable. Enfin voilà, donc ça fait partie des comédies de l'été. Il y a aussi Divorce Club de Michael Youn. Oubliez l'image du Michael Youn que vous pouviez avoir d'avant. Ça avait été présenté à l'Alpe d'Huez. Et je vous le dis très honnêtement, j'étais à côté du journaliste de Paris Match, on a pleuré de rire pendant tout le film. Et le film d'ailleurs a eu le Grand Prix de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, il y a des comédies françaises qui vont arriver en juillet pour se faire du bien
aussi. Ça fait du bien aussi, on en a besoin. On a besoin de belles images, on a besoin du cinéma.
Pour rigoler avec les gens autour de nous, c'est ça aussi le cinéma.
Et c'est ça le retour à la vie dont parlait Olivier Nakache à 7h40 sur Europe 1. Merci Mathieu Charrier, notre spécialiste ciné qui par ailleurs lui aussi retourne au cinéma un petit peu. Vous aviez beaucoup parlé du coronavirus, du Covid, ça doit vous faire du bien aussi de reparler cinéma. Merci Mathieu Charrier. Il est 8h43 sur Europe 1.
Europe 1. Et à suivre la revue de presse avec Nicolas Cantelot et Julie. Europe 1, 8h46.
Ils sont là, Nicolas Cantelou avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Cantelou. Et c'est à vous, Mathieu Béliard.
Bonjour à tous, bonjour Julie. L'info du jour, c'est la rentrée des classes ce 22 juin. Chaque petit Français rentre en classe tout en respectant bien sûr les gestes barrières, la distanciation sociale surtout. C'est une excellente nouvelle, la distanciation sociale pour les enfants qui n'ont pas d'amis. On a une pensée pour eux, spéciale dédicace à tous les petits Nicolas Barré en puissance version de 2020. C'est même une très très bonne nouvelle pour les petites têtes de Turc. Vous savez, ça ne va rien changer à vos habitudes. Mais en plus, chères petites têtes de Turc, les autres ont interdiction aujourd'hui de vous approcher pour vous frapper à la récré. Ça, c'est quand même une avancée sociale. Et puis, on a à l'instant pensé à nos plus jeunes, on pense aussi à nos plus vieux, à nos aînés. L'autre info, en effet, ce sont les températures. Laurent Cabrol le soulignait, les températures élevées cette semaine et la problématique des EHPAD qui doivent limiter l'usage de la clim pour éviter toute propagation du virus. Mais que nos aînés se rassurent, il vaut mieux avoir un peu chaud dans sa chambre habituel que d'être bien au frais dans la chambre froide.
Voilà. Oh,
enfin, c'est la vision que j'en ai. Voilà. Enfin, oui, je crois. À vous juger. J'ai peut-être dérapé, je sais pas. À vous juger. Je vous laisse prendre le relais.
À demain, hein, Mathieu. Rebondissement dans l'affaire Fillon. L'ancienne chef du parquet national, qui s'appelle Éliane Houlette, a fait état de pression de sa hiérarchie pour accélérer la procédure judiciaire contre l'ancien candidat à la présidence. Bonjour, François Fillon.
Oui. J'aime ma femme.
J'aime il y avait longtemps.
Éliane Houlette. Je t'aime Houlette.
Je t'aime Houlette. Alors, la justice aurait bel et bien accéléré votre mise en examen pendant la campagne présidentielle. Ça doit vous mettre en colère, ça.
Non, écoutez, Madame Leclerc, j'aimerais simplement que la justice fasse son travail. Voilà. Contrairement à Pénélope, qui, elle, ne l'a jamais fait son travail.
Et attention, là, vous êtes en train d'avouer que Pénélope...
Non, écoutez, je suis victime depuis tant de mois d'une cabale politique. On a été recherché, vous rendez compte où on en est, on a été recherché une vieille histoire où j'aurais détourné 650 000 euros volés, voilà, disons le mot, à l'État français pour payer ma femme à ne rien foutre. Hein. Et on a demandé instamment, et les preuves sont là, d'accélérer la procédure. Tout ça pour m'empêcher, Madame Leclerc, d'être président. Eh bien, je dis que cela est honteux. Voilà.
Oui, bah, heureusement quand même. Hein. Si on n'avait pas accéléré la procédure, vous auriez été protégé par l'immunité présidentielle et après, l'affaire aurait été annulée grâce à la prescription. Enfin, vous connaissez.
Mais bien sûr, ça aurait été annulé grâce à la prescription. Bah, oui. C'était ça le but, hein. Que j'aille pas en tôle. Hein. Et la justice a tout gâché, tout ça, parce que j'ai volé 650 000 euros. Et j'aurais dû être président. Voilà.
Je vous propose de revenir après le verdict, hein, d'accord ?
Oui, mais enfin.
Allez, bonne chance,
voilà.
M. Fillon. Non, c'est bon, ça ira. En tout cas, Brice Hortefeux.
Je prends pour qui, là ?
Brice Hortefeux a déclaré dans le JDD : l'élection a été faussée.
Oui, mais évidemment qu'elle a été faussée. Et cette élection, il a raison. Brice Hortefeux, c'est une arnaque, je dis, remboursé.
Eh, bonjour, monsieur Hollande.
Attendez.
Quoi ?
Vous me donnez la parole, là ?
Ben oui, oui, oui.
Vous êtes en train de me dire que vous me prenez à l'antenne ?
Ben oui.
Dès lundi, alors que l'autre jour, j'ai dû attendre 5 jours. Oh. 5 jours ouvrés.
Oh, mais écoutez,
vous n'allez pas m'annuler à la dernière minute ?
Non, non, mais bon. Vous inquiétez pas. Mais on a fait ça une fois, tu parles, allez. Ah, on vous écoute, on vous écoute.
Je ne tutoie pas, il n'y a pas de tu parles. Parlez.
Je dis tu parles ?
Ah, bon. Oui.
Allez-y,
bien.
Allez-y.
Donc, je fais mon allocution comme le président Macron. Messieurs, si vous pouvez me mettre la régie, messieurs, vous pouvez mettre la femme Fontaine derrière moi.
Comment
et la Marseillaise, s'il vous plaît. Française. Là, il faut couper, là. La régie, il faut couper, parce que je parle. Française. Français. Bon, on recommence.
Oh non, pas tout. Hein.
Non, pas d'accord. Française, Français. Mes chers compatriotes, je demande à ce que l'élection présidentielle de 2017 soit rejouée la semaine prochaine. Car la justice, sous la houlette de Madame Houlette, m'a volé ma victoire.
Oh là là, c'est bon ça. Non mais pardon, mais vous vous étiez déjà retiré quand François Fillon a eu ses ennuis.
Oui, eh bien, je demande à ce que l'élection soit annulée quand même, ne serait-ce que pour une raison évidente.
Ah bon, quelle raison ?
Ben, pour emmerder Macron, alors. Oh. Vous savez, moi, ça me suffit pour être heureux, moi, vous savez. Et Édouard Philippe, vous avez vu ça ? Vous l'avez répété, dit répété, Édouard Philippe, pour cette popularité étonnante.
Bah,
ouais. Ça, il n'aime pas Macron, qu'on rappelle que son Premier ministre est plus populaire que lui. Bah, de loin, de loin.
Eh bien, écoutez, on vous remercie d'être passé, monsieur Hollande.
Hein. Merci beaucoup. Qui se présente. Hein.
Allez, on en vient à cette convention citoyenne pour le climat qui a rendu ses propositions. Vous savez, il s'agit de cette assemblée de 150 citoyens tirés au sort, chargés de travailler sur la réduction des gaz à effet de serre. Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, d'abord, je tiens à féliciter ces 150 citoyens, ceux et celles, celles et ceux, tous et toutes, chacun et chacune qui ont réussi à formuler tant de propositions, tant et tant. Je veux dire, vous savez, ce sont des. Rappelons que ce sont des provinciaux. Et pourtant, malgré ce côté provincial, ils ont fourni un travail de qualité.
Oh, mais arrêtez.
Et je dois les saluer tous. Il y a tant de personnalités différentes, des étudiants qui étudient, des plombiers qui plombent, des tripiers qui tripent, des travailleurs qui en bavent et des retraités qui bavent aussi. Et ils proposent aujourd'hui des solutions radicales pour notre planète. Agnès, Annie Nulachier l'a rappelé tout à l'heure.
Alors, parmi ces solutions, inscrire la préservation de l'environnement dans la Constitution, reconnaître le crime d'écocide, réguler la publicité, lutter contre l'artificialisation des sols, enfin, il y a plein de choses.
Oui, bon. Je tiens vraiment à remercier ces 150 José Bové. C'est fou. Moi, je pensais que j'étais la tête d'un pays moderne, la cinquième puissance mondiale, et en fait, non, je dirige 60 millions d'éleveurs de chèvres.
Oh, allez, bah, ils m'ont apprécié, moi, encore. Merci, monsieur
Macron. Il
n'y a
plus de rester beaucoup d'éditeurs, vous savez.
Bah, oui, on est fâchés avec tout le monde, là. La Convention citoyenne pour le climat a donc voté à 99,3% la reconnaissance du crime d'écocide, néologisme, hein, qui vise à réprimer les crimes commis contre l'environnement. Ce concept a pourtant été rejeté il y a peu par l'Assemblée nationale. On est avec le président de l'Assemblée, Richard Ferrand.
Oui, écoutez, bonjour, monsieur Béliard, monsieur Cabreau, de la rédaction Europe 1. Écoutez, ce que je vous dis, c'est un groupe de citoyens qui veut réprimer les crimes contre l'environnement. Je trouve ça très bien, je comprends très bien ça. On a tous aidé adolescents notre jeunesse. Je comprends, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi aussi, vous savez, j'ai eu des t-shirts de chez Guevara, j'ai eu des cheveux longs, j'ai voulu protéger la planète. Et puis après, vous savez, autre chose, j'ai grandi.
Non, mais c'est-à-dire, pourquoi l'Assemblée avait rejeté cette notion, plébiscitée par tout le monde ailleurs ?
Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, ma petite fille ? Vous préférez quoi ? Hein, franchement, vivre dans un monde avec des babouins et des flamants roses ou dans un monde avec de l'emploi ? C'est la vraie question qui se pose. Vous pensez que ce sont les ragondins qui vont vous trouver du travail ? Mais non, non, non. C'est une évidence, c'est une réalité. On a besoin de détruire la nature pour produire des biens de consommation et loger les habitants. Voilà, c'est comme ça. Hein. On voudrait rendre ça illégal, mais écoutez, franchement, on marche sur la tête.
Stop. Allez, autre chose, on l'a appris hier. Éric Dupond-Moretti arrivera sur Europe 1 à la rentrée dans votre matinale. Mathieu Béliard. Oula.
Eric, bienvenue dans cette matinale. Tout de suite, on a un appel de Josette.
Mais attendez,
Josette, salut Josette.
Monsieur Moretti, non mais c'est qu'à la rentrée que vous ferez de la radio, hein, c'est pas maintenant.
Oui, pardonnez-moi, je profitais d'être à l'antenne pour m'entraîner.
Ah bon, mais...
Comme l'an prochain, je ne vais pas avoir beaucoup de temps.
Bah oui, vous devez être surchargé. Mais dites-moi, mais comment vous allez faire toutes vos activités et en plus la radio, là, hein? N'oubliez pas de souffler. Hein, aussi, ouais.
Il y a du souffle à l'antenne, alors il faut en régler des micros. Hein. J'ai mis la bonnette.
Bon, alors, comment vous allez faire, dites-nous.
Eh bien, je vais m'organiser. J'ai un emploi du temps, vous le savez, très cadré. Je peux, d'ailleurs, vous le livrer.
Bon, si vous voulez, oui, allez.
Donc 6h-8h, je me lève tôt le matin. 6h-8h, radio sur votre antenne Europe 1, la bien nommée. 9h-10h, matinale télé. Parce que je reste un invité de choix. Et je ne peux pas refuser les invitations qui m'ont été faites, donc il faut que j'y aille.
C'est ça.
10h, midi. Écriture. Écriture, car j'aime écrire. Écriture de mes livres, car je suis aussi... Vous savez, écrivain,
oui.
Midi 16h, tournage de film. J'ai des tournages en route que je ne peux pas annuler car je suis aussi acteur.
Oui.
Ah, 16h15, je fume un petit cigare. Ça s'entend peut-être. 16h15, 18h, j'entre en studio car j'enregistre un album de reggae. Oui, car je suis aussi chanteur.
Oh là là.
Et 19h, 21h, si vous me permettez, bien sûr, je suis. Sur les planches, au théâtre, car c'est ma vraie passion.
Mais vous êtes avocat quand, du coup, alors?
Je suis quoi, quand, pardon?
Avocat, bah, avocat.
Oh, merde. Merde. Merci de me le rappeler. Ah, j'avais complètement oublié. Bon, écoutez, je vais peut-être refaire... Attends, il faut que je regarde dans l'agenda. Je vais faire ça le matin. Le mieux, c'est être avocat le matin. Monsieur Béliard, ça vous ennuie si on fait la matinale décalée vers 16h?
Oh, ça vous irait, Mathieu, hein? Vous levez plus tard.
Voilà une première idée. On l'attend impatiemment, Éric Dupond-Moretti. Nicolas, je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Quelque chose me dit que vous allez vous entendre. Merci, Nicolas Conteloup. Et Julie, évidemment, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. 8h57, il est là. Philippe Vandel, Culture Média, c'est la matinée qui continue. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, et pour enchaîner avec ce que vient de dire Canteloup et ce que vient de dire Éric Dupond-Moretti, il sera l'invité, c'est pas une blague, de Culture Média mercredi. Aujourd'hui, Éric Fotorino qui lance Légende, un truc complètement dingue, c'est un magazine papier trimestriel immense, alors qu'on dit qu'il faut faire petit et court. Donc il fait l'inverse. Doc Quotidien, c'est une nouvelle série qui va démarrer demain sur TMC, et le premier numéro a un titre assez fort, Un an chez les vieux, comment ils sont devenus plus cool que les jeunes. Oui, ils ont bien dit les vieux, pas les seniors ni nos aînés. Le Réal va nous dire pourquoi. Et puis enfin, la chanteuse Émilie Loiseau qui va venir nous parler de son nouvel album, s'appelle Run Run Run, et c'est en hommage à Lou Reed et Velvet Underground.
Ah,
ça va plaire à Amblin, ça.
Oui. Ah oui, ça va plaire à beaucoup de gens, hein,
ouais.
Qui vont écouter Europe 1 de 9h à 11h. C'est Culture Média avec Philippe Vandel. Amblin, nous, on revient demain matin. Enfin, oui. On va écouter jusqu'à 11h.
C'est ça. Ouais, bien
pour
sûr.
Entendre Émilie Loiseau et Lou Reed. Et puis on revient demain
et
matin.
Oui, 5h, Julien Pierce.
Moi, je serai là en direct à partir de 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1.
Europe 1.